Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Conférence sur Radio Certitude, c'est la diffusion de l'enregistrement d'une conférence.
Nous allons écouter à présent un partage du pasteur Pierre Truchel intitulé « Vivre dans l'onction de Dieu », les étapes qui précèdent le miracle.
J'aimerais cet après-midi parler d'un deuxième moyen pour parvenir au miracle. C'est le moyen de, au travers de l'initiative de Dieu. Nous pouvons enclencher le miracle parce que nous exerçons notre foi, nous développons notre foi jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre foi intérieure soit capable de recevoir ce que Dieu, en réalité, nous a déjà donné en Jésus-Christ. N'oubliez pas que si vous êtes malade, vous avez déjà été guéri. Simplement, votre problème n'est pas de convaincre Dieu de vous guérir, il a déjà tout fait en Jésus-Christ à la croix. Votre problème et mon problème, c'est de réaliser que c'est a déjà été fait. C'est ça le problème, la foi. C'est réaliser que c'est déjà fait. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, mais il y a cette deuxième méthode qui est la souveraineté de Dieu, c'est que certains moments, dans une réunion, d'où l'importance, parfois des paroles de connaissance, vous remarquez que parfois, eh bien, on reçoit des paroles de connaissance et on commence à agir. Voilà, le Seigneur montre tel point, tel point, tel point, tel point. Ça, c'est l'initiative de Dieu, c'est la souveraineté, ce sont les dons spirituels maintenant en action. Ça ne dépend pas forcément de celui pour qui on prie, c'est la souveraineté de Dieu. Peut-être que cet homme ou cette femme a prié dans son endroit et que Dieu maintenant va répondre. Mais ce n'est pas l'homme lui-même qui a provoqué cette parole de connaissance, c'est le ministère qui est en action, qui a des dons, et c'est l'Esprit de Dieu qui dirige la réunion, qui à un moment donné donne des paroles de connaissance. Donc, je rappelle encore, il y a la foi, l'exaucement par votre propre démarche spirituelle de foi, et il y a l'exaucement qui peut venir par la souveraineté de Dieu, par des dons spirituels, surnaturels, souverains, dont Dieu a l'initiative. La première, c'est votre initiative à la rencontre de Dieu, dans votre recherche de Dieu. La deuxième, c'est Dieu qui, ou c'est le Saint-Esprit, qui souverainement prend l'initiative dans un auditoire pour donner une parole de connaissance, ou pour guérir au travers d'une parole de connaissance, ou tout simplement, vous êtes là et tout à coup l'Esprit de Dieu descend, et vous êtes guéri. Il existe donc les deux moyens. Le premier moyen est accessible à tous, donc on ne peut pas dire « le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a négligé, un autre est guéri, pourquoi pas moi ?» Nous pouvons tous développer, grandir dans la communion avec Dieu, dans la recherche avec Dieu, demander à Dieu Jésus, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. La foi, eh bien ça se développe, eh bien, c'est un muscle qui se développe, et vous pouvez tous déboucher sur la réalité des promesses en Jésus-Christ, car les promesses sont pour tous. Dieu ne fait exception de personne, Dieu ne fait de différence de personne. Il prend plus de temps pour les uns, pour les autres, à cause des blocages, à cause de toutes sortes de choses, mais vous pouvez tous arriver à l'exaucement de la prière. Tandis que pour le don spirituel, eh bien, c'est la souveraineté de Dieu, c'est l'initiative de Dieu, c'est un peu la piscine de Bethesda où un ange agitait l'eau, eh bien, le premier qui est entré dans l'eau était guéri. Vous voyez, c'était la souveraineté de Dieu. Eh bien, de la même façon, parfois des dons spirituels, en exercice dans une réunion, c'est la souveraineté de Dieu qui agit. Alors souvent on dit, mais pourquoi un tel reçoit-il une parole de connaissance et pas un autre? C'est beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer. Il y a d'abord la prière de cette personne, il y a peut-être la prière de la famille, il y a peut-être la prière d'un membre de quelqu'un qui a prié. Nous serons toujours le résultat de prière, soit les nôtres, soit celles des autres. Hein. Donc on ne sait pas le contexte spirituel parfois qui a précédé, indépendamment même d'une réunion, qui a précédé la raison pour laquelle une parole de connaissance est pour tel homme, pour telle femme, alors qu'elle n'est pas là pour, qu'elle n'est pas donnée pour quelqu'un d'autre, qui a peut-être autant de besoins dans l'auditoire, mais là, il y a des choses, il y a des articulations dans le Saint-Esprit qui dépendent du corps, qui dépendent de tout le passé, qui dépendent de tout l'accompagnement, qui dépendent peut-être de l'intercession, ou peut-être aussi du plan de Dieu pour cette soirée-là, du plan de Dieu aussi pour une vie, etc. J'aimerais maintenant arriver à ce problème, à être très pratique. J'aimerais parler de comment, pour obtenir un miracle, quels sont les stades pratiques pour que vous débouchiez sur un miracle. Hein? Les stades pratiques pour arriver sur un miracle. J'insiste peut-être parce que je me rends compte, quant à l'imposition des mains, vous savez, vous voyez certains qui sont touchés, d'autres non. Tout simplement, c'est tout ça, c'est une sensibilité intérieure que j'essaye d'une façon ou d'une autre. Il y a toutes sortes d'enseignements, donc j'essaye simplement de compléter ce qui existe déjà, que vous avez pu entendre à droite ou à gauche. Donc, pour obtenir un miracle, nous devons apprendre à vivre du miracle. Le miracle fait partie du royaume de Dieu. Le miracle, c'est la participation de Dieu. Mon naturel à moi, je le fais autant que je peux, et je compte sur le surnaturel. Dieu est mon associé, je suis l'associé de Dieu, je suis collaborateur avec Dieu. Donc, il y a toujours la part du surnaturel qui doit accompagner ma propre vie. Donc, comment obtenir un miracle? Et pour introduire cela, si vous avez vos Bibles, je vous propose de lire tout simplement dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, à partir du verset 1er, Jean 11, verset 1er. Jean 11, verset 1er, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Il était positif, lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » »« Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ou les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, celle qui avait dit, « Je sais, Seigneur, que tout ce que tu demanderas à Dieu te la donne. » Eh bien, Marthe lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » On va dans ce récit, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, dans ce récit, il y a quelques étapes de foi qui, si vous les digérez, si vous les assimilez, et si vous osez les exécuter, vont vous faire déboucher sur le miraculeux de Dieu dont vous avez peut-être besoin. Jésus était au-delà du Jourdain avec ses disciples lorsque des envoyés de Marthe et de Marie, les sœurs de Lazare, viennent lui dire « Lazare, ton ami, est gravement malade ». Ça voulait dire que si tu ne viens pas, il va mourir. Et lorsque Jésus apprend cela, je résume rapidement le récit, Jésus tarde, etc., et puis il y arrive, Lazare est déjà mort, et puis vous avez la discussion à laquelle nous venons d'assister, puis c'est le miracle de la résurrection. Mais je vais maintenant vous inviter à pénétrer dans, pas seulement dans le cerveau de Jésus, mais dans dans le processus que Jésus a suivi pour déboucher finalement sur la résurrection de Lazare. Nous allons voir les différentes étapes que vous allez rencontrer dans votre vie si vous voulez vivre le surnaturel, et vous allez réussir ou vous allez rater. Et c'est dans ces étapes-là que vous pouvez comprendre comment le miracle de Dieu peut se manifester. D'abord, une première chose, la première étape que vous pouvez voir, c'est lorsque Jésus apprend la maladie de Lazare, il prononce des paroles importantes. Il prononce des paroles importantes, une confession, j'allais dire, positive, une confession de résultat final. Il proclame, avant de le voir, il proclame même avant de bouger, il proclame même avant de continuer à faire ce qu'il était en train de faire, il proclame une parole, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Devant l'événement, Jésus va faire une proclamation de foi. C'est très important. C'est donc encore plus important parce que entre cette proclamation de foi et le moment où Lazare va sortir du tombeau, il y a combien de jours qu'ils sont là? 4 jours d'ailleurs, ou plutôt beaucoup plus de jours que les 4 jours où Lazare était déjà mort. Pendant cette proclamation, cette décision, cette affirmation, cette pensée, et le résultat de cette pensée, il y a tout un cheminement spirituel que Jésus va vivre, que les disciples vont vivre, que Marthe et Marie vont vivre, et vous allez voir que ça ne va pas être le même courant qui passe. Alors donc, c'est le début d'un commencement, d'un chemin de foi. Et j'aimerais dire que devant votre besoin à vous, là, il y avait le besoin de la guérison, de la résurrection de Lazare, mais chacun d'entre nous, nous avons des résurrections à faire. Résurrection d'un commerce qui fait peut-être faillite, résurrection d'un soutien missionnaire qui manque, résurrection peut-être d'une caisse d'église qui est en train d'être à mort, résurrection ou création d'une manifestation. Il y a un frère qui me racontait, là, il y avait des projets de construction, il y a des points où vous réalisez qu'il faut le miracle de Dieu, parce qu'il faut soit l'endroit, soit les choses, il y a toutes sortes de processus qui viennent. Peut-être également, devant le besoin, peut-être d'une guérison qui est là, d'un soutien dont vous avez besoin, d'une intervention de Dieu sur un terrain bien précis dont vous avez besoin, il y a la première étape qui est extrêmement importante, c'est votre proclamation, c'est-à-dire ce que vous croyez. Ce que vous savez, ce que vous croyez, vous savez que Dieu va faire. C'est important, vous savez que Jésus a dit que les cheveux de notre tête sont comptés. Les choses dans le royaume de Dieu sont extrêmement précises. Il y a des gens qui disent « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi tel argent, Seigneur, donne-moi tel argent ». La vérité est toujours précise. Les choses du royaume de Dieu sont extrêmement précises. Quand Jésus dit « les cheveux de votre tête sont comptés », c'est que c'est vrai. Il n'a pas dit ça comme ça pour une formule d'orateur, pas vrai du tout. C'est extrêmement précis. Parce que Dieu est en vérité, est extrêmement précis. Écoute, quand vous demandez 2 morceaux de pain, vous n'en demandez pas 3. Quand vous demandez une voiture, vous ne demandez pas une mobylette. Quand vous demandez un vélo, vous ne demandez pas une mobylette. Ce n'est pas la même chose. Vous ne demandez peut-être rien, vous demandez un véhicule, et la grâce de Dieu peut vous donner une mobylette, voire même un véhicule. Mais si vous devenez un homme ou une femme qui comprend les principes des miracles, vous allez progressivement devoir apprendre que demander une voiture, ce n'est pas demander une mobylette. Parce que si vous demandez une mobylette, vous recevrez une mobylette. Si vous demandez une voiture, vous recevrez une voiture. Les choses de Dieu sont extrêmement précises. Je vais prendre un exemple, par exemple, excusez-moi si j'étaye souvent les choses dans mes propres expériences, c'est pas pour étaler, c'est parce que c'est comme ça que j'ai compris. Mais je vous ai dit hier que nous étions en pleine construction d'un grand bâtiment. Et on s'est rendu compte, si vous voulez, dans la marche en avant, qu'il y avait des étapes. comme Jésus va en vivre et comme les disciples qui ont accompagné Jésus vont les vivre avec la résurrection de Lazare. Il y a, vous savez, quand à un moment donné, quand nous avons cherché à, quand nous avons acheté un terrain en plein centre-ville, nous avions attendu depuis des années pour trouver cela, eh bien, il a fallu, à cause des exigences de l'urbanisme, il a fallu répondre aux exigences de la sécurité, etc. Et si vous voulez, le projet qui au démarrage était moyen est devenu un projet énorme à cause justement de certaines exigences, etc. Et nous qui étions, vous savez, moi j'étais formé à la multiplication des églises locales dans les quartiers, par exemple à Bangui, nous avons 50 églises. Hein, ça fait 12 000 personnes dans la ville de Bangui sur 400 000 habitants, rien que nos églises sont à peu près 12 000 personnes, et ces 12 000 personnes, donc calculer 50 églises, des églises plus grandes, mais la moyenne d'une église, il y a des églises nouvelles, bon, et nous avons à l'intérieur du pays 200, à peu près 160 églises, 150 à 160 églises à l'intérieur du pays. Donc moi j'ai été formé, si vous voulez, à multiplier, démultiplier les églises. D'autant plus que, vous savez, hein, c'était l'inverse du frère Jung Guichot. En France, et peut-être probablement en Suisse aussi, on dit les grandes églises, il n'y a pas de communion fraternelle, il n'y a pas de relation, on ne s'occupe pas des gens, etc., etc., etc. Hein? Et donc, je vais, et à Grenoble, donc, nous avons l'église mère, a commencé à ouvrir, une deuxième, et puis ensuite, et nous avions pour projet, nous étions partis pour ouvrir de nouveau, cette année, donc au début de l'année, une autre église dans Grenoble, ou dans le quartier périphérique. Donc, nous étions partis cela. Et lorsque, confrontés à la réalité de l'urbanisme, etc., on a été amené à considérer qu'il fallait faire une grande église. Et à ce moment-là, si vous voulez, tout, ce n'était pas nous qui avons débouché là-dessus. On n'a pas voulu avoir une grande église, imiter Pierre, Jacques, Paul ou Jean. Ce n'était pas ça du tout. Ce n'était pas du tout notre vision. Mais à ce moment-là, on a réalisé que c'était Dieu qui nous bloquait. Et qu'on était coincés. Il nous fallait, l'église en plus de ça a été brûlée. Il fallait, on n'était plus dans les sécurités normales. On a été, littéralement, Dieu nous avait littéralement bloqués de tout partout pour nous obliger à changer de vision. C'était pas nous, simplement, par exemple, on était littéralement coincés dans tous les domaines. Coincés physiquement, coincés géographiquement, coincés au niveau des gens. On était obligés, littéralement, de prendre cette orientation. Mais à partir de ce moment-là, le projet a grandi. Hein, le projet, je veux dire, le projet est devenu important au point de vue somme financière. Et à partir de ce moment-là, il a fallu calculer ce que nous pouvions faire pour acheter le terrain, pour terminer le terrain. Ensuite, c'était les premières constructions, la carcasse, les étages, la salle de réunion, le jardin, les parkings obligatoires en ville, etc. Eh bien, on s'était rendu compte que nous ne pouvions pas maîtriser humainement. C'était au-delà de nos capacités financières, d'autant plus que nous avions toute la charge missionnaire. Et on était coincés. Et il fallait donc, comme je disais hier, il fallait que Dieu parle d'abord. Donc, il y a eu cette parole de Dieu intérieur, confirmé par des circonstances extérieures, vous en ai donné quelques-unes, mais il y en avait d'autres, il y avait l'apport. Nous sommes retrouvés à un moment donné avec tous les responsables de la municipalité de Grenoble, donc Grenoble est une agglomération qui fait 500 000 habitants, nous sommes retrouvés donc à haut niveau, et les gars, deux jours avant la clôture du compromis de vente, les gars nous ont dit, on arrête tout, il faut que vous refassiez toutes vos demandes. Il y avait un promoteur qui avait acheté à côté avec qui nous étions tombés d'accord, ils lui ont dit, ça ne marche plus, on annule tout. C'est-à-dire que tout était fichu et les concurrents promoteurs étaient en route pour réacheter ce que nous avions signé comme compromis. Et nous avons vu là également, moi je me rappelle, je me suis retrouvé avec 6-7 responsables à haut niveau dans toute l'agglomération. Je me rappelle, je leur ai fait une prédication, je n'avais jamais pensé faire ça. Hein. Nous avons été reçus par le maire, avant vous savez, j'étais considéré comme un petit mouvement évangélique. Vous savez, dans le coin, on ne sait pas trop comment ça se sent dans ces milieux-là. Ben, nous avons eu nos réunions avec le maire, on a pu partager. Et on a découvert que Dieu était en train de nous faire pénétrer au travers de cette construction dans une dimension, au point de vue impact public, nous n'avions jamais eu. Et alors, on parlait à ces gens-là, je leur ai dit, écoutez, vous travaillez, vous gagnez votre sou, hein. Le promoteur à côté de moi, lui, il gagne de l'argent avec ses appartements, mais nous sommes une œuvre chrétienne, nous travaillons par vocation, nous avons lâché notre emploi, nous avons lâché notre salaire, nous travaillons, nous faisons de la réinsertion, nous faisons partie de la banque alimentaire, nous sommes Grenoble Solidarité, Action Sociale, c'est toutes ces choses-là que nous avons, et bien nous travaillons pour gagner des âmes, nous gagnons pour changer les gens, pour avoir un impact dans cette ville, pour redresser ce qui est tordu, alors vous ne pouvez pas jouer avec nous comme vous jouez avec des promoteurs, il faut que vous nous le donniez. Et vous auriez pu entendre ces gens-là changer, en 5 minutes, changer complètement, tout autour, ils nous ont donné. Alors il y en avait un qui me disait, mais ça s'est jamais fait comme ça. Mais je dis, personne n'interdit d'innover. Hein? Et c'est comme ça, je peux vous garantir. Alors, je prends et je me rendais compte, il y avait notre architecte, il y avait ce comité, il y avait le promoteur à côté, puis il y avait un responsable avec moi de l'église. Je me sentais avant d'y aller, on a su que c'était une bataille. Hein. Et quand, justement, quand ils ont tout annulé, on a vu tout s'écrouler, c'est là que si vous n'avez pas au fond de vous cette parole qui vient de Dieu, tout craque. Donc, il a d'abord fallu, point par point, prendre. Ensuite, ça a été le paiement. Ça a été le paiement du terrain. Bon, là encore, il a fallu expliquer aux chrétiens. Mais les chrétiens avaient déjà payé d'autres églises. Vous savez, chaque fois, l'église mère, hein, c'est une église qui donne toujours, elle ne reçoit jamais, elle donne. Hein. Alors, on a ouvert ici, on a ouvert là, on a ouvert là, on a acheté ici, on a acheté là, un peu en Afrique. Et ce qui fait que c'est, eh bien, il a fallu expliquer aux chrétiens l'entreprise de foi qu'on faisait. Et vous savez, dans toute œuvre chrétienne, vous avez toujours ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Hein. Et ceux qui ont peur, voyez, où il va, où il nous entraîne, etc., etc. Et il a fallu ensuite placer les chrétiens sur la démarche de foi. Parce que c'était vraiment une démarche de foi incroyable au point de vue financier, mais également au point de vue construction. Il fallait, vous savez, nous avions toujours fait tout, pratiquement beaucoup de choses nous-mêmes. Hein. Et voilà qu'il fallait amener les bulldozers, il fallait l'entreprise, il fallait deux grues, il fallait tout, quoi. Hein. Ça prenait une toute autre dimension à laquelle nous n'étions pas habitués auparavant. Et nous avons connu des étapes financières, et nous avons connu des étapes administratives, et nous avons également connu des étapes dans notre propre développement au point de vue église. Et en construisant ce bâtiment, nous avons compris, tu nous as amené à comprendre que maintenant il fallait reconstruire spirituellement, que ce n'était pas le bâtiment qui était important, le bâtiment est un outil simplement, et qu'il fallait construire une nouvelle église spirituellement parlant, et de pierres vivantes formées des hommes et des femmes. Et alors c'est enclenché dans l'église toute une nouvelle dimension, toute une nouvelle vision, et il a fallu constamment proclamer devant les chrétiens, constamment proclamer devant les chrétiens la vision, c'est pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui pourvoira, c'est Dieu qui pourvoira, c'est Dieu qui pourvoira, nous sommes dans le plan de Dieu. Et constamment il fallait rappeler aux chrétiens, dire aux chrétiens, les exaucements de prières financières, les exaucements de prières administratives, les exaucements de prières avec les promoteurs, tout ce travail-là, les différents techniciens, tout ce travail-là se faisait, et chaque fois, on se rendait compte que c'était, finalement, vous savez, dans l'œuvre de Dieu, Dieu travaille avec des hommes, eh bien, je me rendais compte que parfois, c'était moi qui avais la solution, papa, justement, parce que j'étais le responsable final, et ce que je proclamais du haut de l'estrade, les chrétiens l'acceptaient, mais ce que je proclamais, c'est que ça se créait, mais qu'il fallait que je ose me mouiller, excusez-moi du terme, il fallait que je me jette à l'eau parfois devant les chrétiens, je leur disais, on y arrivera, Dieu pourvoira, nous n'avions pas d'argent pour payer l'échéance de telle ou telle étape de croissance, et chaque fois quand je prononçais les paroles, ou quand le trésorier, parce qu'il y a un trésorier formidable, prononçait les paroles, les chrétiens disaient, Alléluia, ils ne se rendaient pas compte que nous, hein. Et bien, les choses se débloquaient. Et c'est ainsi que, si vous voulez, je prends cet exemple-là parce que je vous parle de la construction, mais j'ai retrouvé la même chose en Afrique. Envoyer des jeunes comme ça en Afrique où il n'y a rien, acheter du terrain, leur laisser construire des bâtiments, ouvrir une école biblique. Nous avons un collège chrétien avec 150 élèves, avec un internat, etc., au sud du Tchad. Hein. Et je vous dis, il faut envoyer des gars, il faut envoyer de la terre. Nous avons appris à débloquer des avions militaires. Nous ne connaissions pas toutes ces choses-là. Nous avons appris à faire des camions, à les réparer, à les envoyer par bateau et ensuite à les chercher sur Douala. Et toutes ces choses-là, nous avons, ce que je veux montrer par là, c'est palier par palier que les choses se font. Rien ne se fait tout seul. J'aimerais dire que je pense que Genève ne s'est pas construite en un seul jour. Hein. Eh bien, c'est la même chose dans l'œuvre de Dieu. Mais chaque étape est importante. Et dans la mesure où vous ratez une étape, vous n'avancez plus. Mais chaque étape. Donc, c'est important. Et prendre un exemple, comme actuellement, nous sommes arrivés au niveau de la construction, juste avant que je parte. Hein. Bon, les Grissons, nous sommes arrivés à une étape financière. Là, nécessité, toute la sonorisation, la salle, tous les problèmes. Nous avons calculé financièrement tout, les bâtiments, etc. Mais il y a tout l'intérieur. Ceux qui connaissent un peu les travaux, les portes, les fenêtres, la sonorisation, le chauffage, toutes ces choses-là, sont des choses que nous avons comptées avec Dieu, marche par la foi. Et maintenant, nous sommes devant un nouvel objectif. Et ce nouvel objectif, d'abord les frères du bureau, les confrères du conseil, nous participons ensemble, nous mettons cela, nous le proclamons, ensuite nous le communiquons à la réunion de prière de l'Église, et ensuite nous continuons, et là c'est le problème des responsables, ensuite spirituellement, dans notre prière personnelle, dans notre jogging, hein, puisque c'est le mois à jour, et bien dans notre jogging, et bien nous proclamons que l'Éternel est celui qui pourvoit. L'Éternel est celui qui pourvoit. L'Éternel est celui qui pourvoit. Et il pourvoit où? Dans votre besoin précis, concret. Et c'est ainsi que lorsque vous prenez les noms de Dieu, Dieu qui sauve, l'Éternel qui guérit, l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon berger, l'Éternel qui pourvoit, Eh bien, lorsque vous réalisez que toute la réalité du nom de l'Éternel se trouve en Jésus-Christ, et que dans le Christ, vous avez tout ce qui contribue à votre vie, à votre piété, à partir de ce moment-là, dans votre relation avec Dieu en Jésus-Christ, Dieu pourvoira avec richesse et gloire, à condition que vous ayez la foi pour oser le croire. Donc point par point, étape par étape. Et donc, nous sommes là à la première étape. Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Christ de Dieu soit glorifié par elle. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus va dire, que Jésus proclame une assurance terrible que ce Lazare, il va le ressusciter, il le sait, il n'est pas à la mort. Il n'est pas à la mort, ça veut dire que Jésus a tout de suite compris, il avait su que Lazare allait mourir, mais qu'il allait le ressusciter. Et il faut quand même pas nous rappeler, il faut quand même nous rappeler que Jésus était un homme comme vous et comme moi. Il était fils de Dieu par son origine, mais comme il disait, fils de l'homme. Donc, son exercice de foi, il devait le faire comme vous, comme moi. Il devait développer sa foi comme vous, comme moi. N'oubliez pas que Jésus a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Il y a eu de la formation. Donc, il faut comprendre que c'est en tant qu'homme que Jésus a affronté Satan. C'est en tant qu'homme que Jésus a exercé ses pas de foi. C'est en tant qu'homme que Jésus chassait les démons. C'est en tant qu'homme que Jésus guérissait les malades. C'est en tant qu'homme que Jésus marchait sur l'eau. Il est le nouvel Adam, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est en tant qu'homme. Donc il a eu les mêmes luttes que vous. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. On peut en dire, oh c'était Jésus, il disait simplement, ça coulait comme de l'eau de roche. C'est pas vrai. Pas vrai. Il a eu son combat de foi. Un exemple de son combat de foi, regardez-le, quand il est dans le jardin de Gethsémané et que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y avait de la bagarre entre l'humanité de Jésus et sa divinité, son esprit de soumission à Dieu. Il y avait de la bataille. Mais regardez, Jésus très ferme. Très ferme. Cette maladie n'est point à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Et entre ce verset-là, qui dit cette maladie, le verset 4 et le verset 40, où Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Il y en a des heures qui ont passé, hein. Une œuvre que vous commencez avec Dieu, un miracle dans lequel vous voulez déboucher, eh bien, prend du temps. Il y a ces différentes époques. Alors donc, j'aimerais dire que quand vous voulez débarquer, quand vous avez un objectif de la part en Dieu, eh bien, vous allez rencontrer plusieurs périls, affronter plusieurs obstacles à renverser. C'est de cela donc que j'aimerais parler. Ces difficultés peuvent être, on pourrait peut-être les appeler le voyage de la foi, parce que, et c'est là que j'aimerais dire, parce que l'attente entre ce que je veux, ce que je crois, et le résultat, c'est quelque chose d'éprouvant terriblement. Je crois au démarrage, en cours de route, je commence à dire, et si je me suis trompé? Et si ça? Et si ça? Et si ça? Et si c'était toi-même? Et si tu n'étais pas dans le plan de Dieu? Et si Dieu n'était pas d'accord? Et si la chose comme ça? Je voudrais vous dire que le délai entre ce que vous avez dit au départ, vous avez cru au départ, le délai entre ce que vous avez cru et l'exaucement, la longueur de ce délai-là révèle le degré de votre foi, la stature de votre foi. Quand vous êtes exaucé immédiatement, il n'y a pas besoin de beaucoup de foi. Quand vous êtes exaucé dans 2 jours, ça commence déjà à travailler. Est-ce que réellement Dieu m'a entendu? Mais quand vous êtes exaucé dans 6 mois, 1 an, c'est encore autre chose. Mais quand vous êtes exaucé dans 10 ans, c'est encore autre chose. Mais il y a des choses que vous aurez exaucées que dans 10 ans. Moi, il y a des choses que je vois aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, qui commençaient à prier pour ça. Aujourd'hui seulement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que Dieu nous amène, jour après jour, à une stature authentique de foi. Un exemple, souvent quand on prie, on le sait que le grand problème, ce n'est pas tellement de guérir les gens ou de libérer les gens. Le grand problème, c'est que les gens n'arrivent pas à garder leur guérison et leur délivrance. C'est le grand problème au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? On prie pour quelqu'un, il sent une onction qui passe, il sent qu'il va mieux, il rentre à la maison. Voilà que top, le lendemain matin, ou 3-4 jours après, ou une semaine après, paf, le mal revient. Ah, il dit, je croyais être guéri, pourtant, j'ai pas été guéri. Au moment où il dit ça, regardez voir, c'est la première parole, ça rentre, c'est revenu. Pas compris, j'ai mal, il écoute ses sens. Au lieu d'écouter la parole de Dieu qui lui dit qu'il a été guéri, il a eu une confirmation par l'Esprit de Dieu. Au moment où on a prié pour lui, il a réalisé quelque chose, il a senti quelque chose, il a su quelque chose. Il a cru à ce moment-là, il a eu la liberté intérieure de croire, à ce moment-là, il reçoit. Même s'il ne le sent pas, il le reçoit spirituellement. Mais si après, parce qu'il sent, il annule, tout revient. Et on le sait, dans le temps, dans le domaine de la délivrance, que dans le domaine de la maladie, le diable reviendra toujours. Il serait un mauvais joueur s'il ne le faisait pas. Un démon pourchassé, s'il ne veut pas revenir, c'est un pauvre. Mais il veut revenir. Jésus le dira, il revient. Il revient, revient. Puis trouve la maison, si la maison n'est pas solidement remplie de la foi, ben, il va en chercher cette autre. J'ai vu, vous savez, un jour, j'ai prié pour quelqu'un, j'étais tout jeune prédicateur, et on m'a amené dans une maison, et il y avait un homme qui avait cancer de la peau. Vous savez, c'était terrible, des boules, là. Je n'avais jamais vu ça, c'était horrible. C'était quelqu'un qui n'était pas chrétien. Bon, il y avait religion traditionnelle, et je lui ai expliqué que tu étais vivant, que Jésus guérissait, que la maladie n'était pas de Dieu, que Dieu ne demandait pas de souffrir pour gagner le ciel, c'était Jésus qui avait souffert pour nous. Et que Jésus avait également chargé, était également chargé de nos maladies, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y avait toute la famille autour, nous avons prié pour lui, et puis, le lendemain, paf, toutes ses boursouflures avaient disparu, et puis quelques jours après, il a repris à manger, ressorti, c'était une vraie résurrection d'entre les morts. Sa fille, sa femme, sa grand-mère, la grand-mère sont venues à l'église, et lui aussi. Et nous avions annoncé des baptêmes un mois après, faisions des baptêmes, et voilà que la jeune fille, qui avait à cette époque-là 16 ans, rentre à la maison et dit, « Papa, moi aussi, je vais me faire baptiser. » Et vous avez cet homme, Furax, qui se lève, nous sommes nés dans cette religion-là, hein, je ne veux pas la nommer, on mourra dans cette religion. Terminé, claqué la porte, il s'est couché le matin, il s'est réveillé, tout était de nouveau là. Crac, crac. La famille m'a appelé, 15 jours après, il était mort. J'ai rarement vu, je voudrais vous dire quelque chose, j'ai rarement vu des gens être guéris et ne pas marcher. Rappelez-vous Jésus qui a dit à cet homme, prends garde de ne pas repêcher de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. J'ai rarement vu les gens qui étaient guéris et qui piétinaient cela, retomber malade, être guéris à nouveau. Je l'ai rarement vu dans ma vie de ministère. Si vous avez une guérison, gardez-la. Si vous savez, il y a les serments, on fait serment, c'est des gens qui disent, Seigneur, je te donne ma vie. Combien j'ai vu. Racontez un autre cas. Un jour, je prêchais un dimanche après-midi, vous savez, c'est dans l'ancienne église, maintenant c'est brûlé, mais dans le nouvel référent, la radio capte, notre radio chrétienne, donc, retransmet en direct nos réunions d'évangélisation. Les gens nous téléphonent pour qu'on prie pour eux à la fin des prédications. Et j'avais prêché sur la guérison divine, là, à la radio, un dimanche après-midi. Et pendant que je prêchais, je parlais que Dieu ne voulait pas le mal, que le mal était du péché, et que derrière tout ça, il y avait le travail du diable. Eh bien, il y avait, je ne le savais pas, à la fin de la réunion, nous avons eu un coup de téléphone et un homme a demandé une visite. Et je suis allé, c'était un censeur de lycée qui était dans son parc, dans une villa, dans la banlieue de Grenoble, et qui était couché là, qui avait un cancer, qui avait un cancer généralisé, qui était couché là, dans l'herbe, etc. Et on avait mis le poste, et je ne sais pas trop ce qu'il avait fait. Il avait appuyé, et c'est Radio Certitude qui est sorti. Et il m'a entendu parler de la guérison divine. Et ça l'a bloqué, et il a écouté toute la prédication. Et il nous a appelé. Il a expliqué, il m'a donné des cassettes, il a revoulu reprendre la cassette de l'enregistrement de la prédication. On lui en a donné d'autres sur la guérison divine. On est allé prier, des frères sont allés prier pour lui, et puis à un moment donné, on n'a plus entendu parler de lui. 6 mois ont passé, 7 mois on parlait, nous on n'a pas voulu s'imposer, on n'y est pas allé. De 8 mois, je reçois un coup de téléphone, un matin d'une femme, qui dit, monsieur le pasteur, oui, voilà, je suis madame, on ne me rappelle même plus, vous savez, c'est que vous êtes venu voir le mari, est-ce que vous pouvez venir vite? Dans ma voiture, je vais là-bas, je retrouve cet homme, dans le salon, couché, pire qu'avant. Et elle me dit, est-ce que vous pourrez prier pour lui? Alors je dis oui, puis j'essaye de savoir, je sentais qu'ils étaient gênés. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la dame s'est effondrée en larmes. Elle expliquait que, donc après qu'on avait pris le premier contact, cet homme a commencé à aller mieux. Au fil des jours, il a retrouvé ses forces, s'est relevé, a pu remarcher, a pu remanger. Et puis, paf, il a repris sa vie. Il est allé avec sa femme faire les courses, il roulait en voiture. Hein, une vraie résurrection. Et cet homme, guéri par la puissance de Dieu, a dit, maintenant je suis guéri, terminé. Et 8 mois après, pensant être maître de son sort, hein, 8 mois après, la maladie est revenue en quelques instants. J'ai prié, j'ai essayé, vous savez, je vous dis ça là, j'ai prié, j'ai essayé. Il n'y a plus rien à faire. C'était la destruction, c'était la mort. Il y a des choses, il y a des points non-retour. Il y a le retour, le diable essaye de revenir. Ça, nous devons faire attention. Nous devons lui résister à une foi ferme. Ce n'est pas parce que je sens la maladie que je l'ai. Si je construis ma vie sur ce que je sens et ce que je vois, je construis ma vie sur l'homme extérieur. Mais si je construis ma vie sur ce que je sais qui est vrai de la parole de Dieu, je construis ma vie sur l'homme intérieur. Si tu construis ta vie sur l'homme extérieur, tes miracles disparaîtront. Si tu construis ta vie sur l'homme intérieur, tes miracles persisteront. Mais tout est question déjà de proclamation. Jésus a dit, cette maladie n'est pas à la mort. Si chaque réponse venait sans délai, nous ne connaîtrions jamais la puissance de notre foi. Mais l'attente est pour nous l'occasion de détruire certains obstacles et de progresser sur le chemin de notre foi vers un miracle. Et j'aimerais maintenant parler du premier obstacle que vous rencontrez, que je rencontre, que chaque responsable ici rencontre. Ça fait partie du tissu de la vie, ça fait partie de notre nature d'incrédulité, ça fait partie du combat spirituel. Et le premier obstacle que je rencontre, c'est, j'aimerais le dire, c'est la crainte. C'est la crainte. Ne vous imaginez pas que lancer un objectif de construction, on n'a pas la trouille. Ne vous imaginez pas quand on vous dit que vous avez un cancer, que croire que Dieu va vous guérir, il n'y a pas de crainte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il va le faire? Mais est-ce que c'est sûr? Et alors vous savez, vous avez tous les exemples qu'on vous apporte sans même que vous les demandiez. Oui, un tel a cru, puis il en est mort. Et puis il y a eu le fanatisme de la foi, il y a eu le fanatisme des Écritures. Et puis on vous parle de telle expérience, de tel homme, de tel livre, de tel bouquin, de telle expérience, de telle chose. À tel point que vous êtes comme Pierre, vous enfoncez, quoi. C'est là que vous voyez déjà que votre foi, c'est pas grand-chose. Mais il faut la développer. Alors, premier obstacle, sa crainte. Et là, on le voit avec Jésus. Jésus dit, Lazare, et Jésus dira, retourne en Judée. Alors que quelques semaines auparavant, les Juifs en Judée ont voulu le lapider, le tuer. Voilà que Jésus dit, on va retourner maintenant en Judée. Tout de suite, lui sait ce qu'il fait. Mais ses collègues, ses disciples, non. Et tout de suite, la peur, mais Seigneur, tu sais, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus leur dit, on va le réveiller, ce Lazare, on va le réveiller. Leur vision est claire, mais quand Jésus dit, on va y aller, alors là, leur vision du résultat est embrouillée par quoi? Par la crainte, mais si on y va, on va se faire arrêter. Si on y va, on va se faire détruire. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La foi, c'est quelque chose que vous mettez en action. Vous pouvez avoir les plus belles résolutions. Vous pouvez avoir... Je vais prendre un exemple, nous allons voir tout à l'heure. Il y a des moments où il faut ôter la pierre. Il y a des moments où il faut vous mouiller. Il y a des moments où, si j'allais dire, il faut commencer à agir en acceptant le risque que vous prenez. En acceptant le risque de l'échec. Mais si vous dites, tant pis, si j'échoue, vous n'avez pas encore la foi, vous êtes en train encore de démontrer, vous êtes un grand incrédule. Mais il faut, c'est en le fait de vous lancer. Quand Jésus a dit retournons, là vous avez tout de suite vu que leur bonne volonté, tout de suite la crainte est venue, ils ont eu peur. La crainte suscite une interprétation erronée de tout signe. La crainte mésinterprète tout ce que nous voyons ou entendons. Je n'ai pas le temps simplement d'assister, mais je veux simplement vous dire, le fait maintenant que vous comptez sur un miracle, le premier obstacle que vous rencontrez, c'est la crainte. La crainte, c'est quelque chose de réel. Dieu a-t-il réellement dit, d'abord Est-ce que je ne force pas les Écritures? Est-ce que mon réma, ou est-ce que ma direction, ou est-ce que ma vision est vraiment juste? Est-ce que je vais être soutenu? Est-ce que je vais être aidé? Qu'est-ce qu'on va dire si j'échoue? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si, ça vous guette, ça me guette, ça nous guette tous. Mais il faut remporter la victoire. Parce que si vous laissez bloquer par la crainte, vous ne ferez jamais rien de bon dans la vie. Et ça, c'est le problème. Pourquoi il y a des chrétiens qui vivent des miracles et d'autres non? Parce que dès que la crainte vient, il y en a qui lâchent. Il ne faut pas exagérer. Je me rappelle un jour, on avait entraîné des gens dans le jeûne et dans la prière. Et bien, on a dit, voilà, on propose pour l'église 8 jours de jeûne. 8 jours de jeûne dans une église. Vous savez, comment 8 jours de jeûne? Vous n'êtes pas obligé de venir, ceux qui veulent. Comment? C'est du fanatisme. C'est pas normal. Les gens qui n'aimaient pas jeûner, bien sûr, ils vous trouvaient à rouspète. C'est normal qu'il y ait des gens qui rouspètent. Dans la vie, vous aurez toujours des gens qui rouspètent. Marie, quand vous voulez faire parfois certaines choses, votre femme, elle vous dit bien, où tu vas? Normal, ça fait partie de la vie et vice-versa. On n'a jamais l'unité profonde immédiatement. Ou parfois, il y a des divergences d'interprétation. Parfois, il y a des craintes chez l'un, des craintes chez l'autre. Il y aurait toujours l'obstacle de la crainte. Mais c'est là qu'il faut ne pas écouter la crainte, mais il faut vous lancer. Alors je dirais, la crainte, et quand vous laissez la crainte rentrer, alors tout devient flou. Je vais prendre un exemple. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Vous avez un mal qui vous ronge. On l'a dit. Le médecin vous l'a dit. Vous le sentez. Vous le voyez. Bon, la Bible dit que vous avez été guéri. Votre corps vous dit que vous êtes malade. Les radios disent que vous êtes malade. Alors, comme on n'a jamais vu un cancer guéri de ce genre-là, celui que vous avez, Là-bas. Et voilà que vous dites, mais j'ai été guéri. Mais non, tu es malade. Mais j'ai été guéri. Mais non, tu es malade. J'ai été guéri. Alors, tout ça, ça devient flou. Et on ne sait plus. On ne sait plus, on espère, on est un peu comme une bouée flottant sur l'eau. On lutte. En haut, en bas, en haut, en bas. C'est la crainte. Vous ne pouvez pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter dans n'importe quel domaine miraculeux. Il vous faut remporter d'abord cette victoire. Et je dirais encore que la crainte compose le plus mauvais scénario dans n'importe quelle situation. Et remarquez, quand vous avez peur, tout devient noir. Hein? Ça ne marchera pas, ça n'ira pas. Et puis j'ai la rate qui se dilate, j'ai l'estomac qui éclate, j'ai le poids du... Hein? Et ça vient, je prends dans le domaine de la maladie, mais c'est incroyable. Et je vais vous dire quelque chose, où vous êtes attaqué dans la crainte. C'est qu'au moment où vous commencez à vous lancer, le diable s'y met. Et vous avez tous les obstacles possibles et imaginables qui viennent. Vous savez, quand on s'est foncé pour la construction, eh bien, à partir de ce moment-là, on a vu le diable agir dans tous les rouages. Agir dans les rouages administratifs, agir dans les rouages techniques, agir dans les rouages bancaires, agir dans les rouages fraternels, agir dans les rouages de la vision, agir dans les personnes qui étaient les plus qualifiées dans l'Église, qui à un moment donné se sont découragées. La crainte, c'est incroyable quand elle prend, c'est comme du chien dent. Ça pénètre tous vos raisonnements, ça vous voile la vision. Mais il faut, eh bien, Jésus a dit, Judée, les disciples pensent à la persécution, à la lapidation et à la mort. Jésus dit Judée parce qu'il allait là pour accomplir un miracle. Et quand vous avez peur et que vous triomphez de la peur, c'est là que le miracle va se pointer. C'est là que le miracle va venir. Jésus a dû renverser l'obstacle de la crainte dans leur pensée. Et nous également, nous devons renverser l'obstacle de la crainte si nous voulons commencer le voyage de la foi menant jusqu'au miracle voulu. Un obstacle, et vous savez, quand on est conducteur, eh bien, c'est pas, nous n'avons pas seulement à lutter avec notre propre incrédulité, mais il y a également l'incrédulité de tous ceux qui nous accompagnent, des collaborateurs, plus l'objectif est grand, vous ne pouvez pas aller selon votre, plus vous pouvez aller dans votre stature. C'est souvent comme ça. Donc, quand Jésus a guéri la fille de Jaïrus, eh bien, il a évacué tout le monde de la maison parce que les gens étaient incrédules. Jésus a dit, cette fille n'est pas morte, elle dort, ils se sont tous rigolés. Et ils ont mis dehors. C'est un obstacle vivant. Il les a mis dehors. Eh bien, parfois, vous comprenez, vous êtes parfois un moteur devant des collègues, vous êtes parfois un moteur devant l'Église, vous êtes parfois un moteur dans votre action, vous êtes parfois un moteur dans votre vie de couple, vous êtes parfois un moteur dans votre vie familiale, conjugale, vous êtes un moteur dans votre milieu peut-être, là où justement le miracle doit avoir lieu. Parfois, vous êtes seul. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Ça vous trempe un homme, ça vous trempe une femme. C'est fini les chrétiens mauviettes. Les hommes femmelettes et les femmes omelettes, hein. Alors, deuxième obstacle, allez vite. Deuxième obstacle, c'est la confusion. D'abord la crainte, et puis les disciples qui ne comprennent pas, quand Jésus leur dit, mais Lazare dort, je vais le réveiller, ils ne comprennent pas, ils disent, Seigneur, mais s'il dort, ça va bien. Dieu va le rétablir, hein. Les disciples ne comprenaient pas la vraie situation. Ils ne pouvaient pas saisir tous les faits. Ils ne comprenaient pas le genre de miracle nécessaire. Comment pouvaient-ils avoir la foi dans de telles circonstances? C'est simple. Il y avait confusion dans leur tête. Jésus savait où il allait. Eux suivaient, mais ne comprenaient pas. Et j'aimerais vous dire que l'obstacle que vous allez rencontrer dans votre prière, c'est, à un moment donné, vous avez des confusions. Mais comment Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas de moi? Et ça va à un moment donné, ça va jouer les castagnettes dans votre cerveau. Et c'est normal. C'est normal, faut pas dire j'ai pas la foi. Vous avez le combat de foi à faire là. C'est normal. Et plus de ça, si vous êtes accompagné, eh bien, à droite, à gauche, on vous comprendra pas non plus. Vous savez, ne pensez pas que Dieu travaille avec des comités, hein. Dieu travaille avec des comités, mais dans ces comités, Dieu travaille avec des hommes. Vous pouvez avoir tout un comité d'accord et ça peut être dans l'erreur, et vous pouvez avoir un seul bonhomme dans le comité qui a raison. Dieu travaille avec des hommes, Dieu travaille avec des individus, Dieu travaille avec des femmes. Parce que, si vous voulez, les visions, ça se communique, et ce n'est pas forcément tout un ensemble qui reçoit la vision. Moi, je dis honnêtement, dans tout ce que, et je dis pas ça parce que c'était simplement ma part, mais je dis dans tout ce qu'on a pu faire, comme pas de foi important en Afrique ou ici, et bien, je me suis rendu compte qu'au démarrage, c'était pas le comité qui était d'accord. C'était deux, trois frères qui comprenaient, qui avaient la vision. Les autres non. Et il a fallu les amener à cette vision des choses. Et vous avez toujours des gens, dès que vous commencez à vivre, il y a toujours des gens qui vous éteignent. Mais non. Au lieu de dire oui, mais ils disent non, car. Et c'est normal, il y a toujours des gens qui sont... Vous aurez toujours des oppositions, ça fait partie d'oppositions. En vous, la confusion, des fois, vous ne saurez plus où vous en êtes. Et il faut absolument vous accrocher au démarrage, à la parole du départ. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Oui, Dieu a dit. Et puis moi, au démarrage, je suis honnête, je n'ai pas cherché ma gloire, je n'ai pas cherché mon intérêt. Cette maladie n'est pas la mort, ce miracle est à moi, parce que je suis convaincu, je crois que c'est dans le plan de Dieu. Je ne prends pas un risque n'importe comment. Seigneur, je te fais confiance, tu es mon père, sinon tu m'aurais averti. Confiance ? La confusion ? J'aimerais dire seulement ceci. Christ n'est pas venu dans ce monde seulement pour nous encourager, pour nous aider à porter nos fardeaux, pour nous consoler. Il va beaucoup plus que cela. J'aimerais dire que justement le miracle de la confusion, le problème de la confusion va vous faire découvrir dans votre confusion que la réalité de Dieu va encore au-delà de ce que vous avez pu concevoir avant votre confusion. En un mot, Dieu permet parfois que vous soyez comme secoué comme une cabane, où toutes vos assises dégringolent, chutent, où toute la poussière de votre incrédulité descend du toit. Et à un moment donné, vous réaliserez que ce que vous avez cru, la façon dont vous avez conçu, les choses que vous avez voulues, eh bien, en réalité, Dieu est beaucoup plus loin que ça, a vu beaucoup plus loin que ça, et qu'en réalité, ce n'était qu'une étape vers la seconde étape à laquelle Dieu voulait vous amener. Confusion. On ne sait pas, on ne sait plus. Eh bien, j'aimerais dire, si nous ne venons jamais à Christ comme notre Sauveur, alors nous sommes perdus et nous avons besoin du miracle du salut, le miracle de la naissance. Nous n'avons pas seulement besoin de religion, et c'est la même chose pour le miracle du pardon, de la paix de Dieu, du Christ devant nous. Si nous sommes malades, nous avons besoin du miracle de la guérison, non pas seulement de consolation, d'encouragement ou d'aide, mais d'un miracle. Je vous dirai ce que je veux dire par là, soyez clair, soyez explicite, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin d'une guérison. Vous n'avez pas besoin, Seigneur, j'aimerais que tu j'aille mieux. J'ai besoin de telle guérison. J'ai besoin que ce cancer soit détruit. J'ai besoin que cette maladie soit détruite. Seigneur, j'ai besoin de telle somme d'argent. Moi, je veux dire, j'ai un objectif d'argent. Je ne veux pas le dire pour que vous ne pensiez pas que je veux faire un appel. Hein. Mais je dis, nous avons une étape là. Je ne sais pas comment ça va venir. Je vous l'ai raconté hier d'une façon soutenue. Je pourrais vous raconter pendant des heures comment missionner. Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai une certaine somme d'argent qui est là. J'attends. C'est dans mon objectif. C'est précis. C'est clair. Vous avez besoin d'une guérison. Vous avez besoin d'une guérison. Vous n'avez pas besoin, Seigneur, j'aimerais que j'aille mieux. J'ai besoin de telle guérison. J'ai besoin que ce cancer soit détruit. J'ai besoin que cette maladie soit détruite. Seigneur, j'ai besoin de telle somme d'argent. Moi, je veux vous dire, j'ai un objectif d'argent. Je ne veux pas le dire pour que vous ne pensiez pas que je veux faire un appel. Hein. Mais je dis, nous avons une étape là. Je ne sais pas comment ça va venir. Je vous l'ai raconté hier d'une façon soutenue. Je pourrais vous raconter pendant des heures comment missionner. Je ne sais pas. Mais je sais que j'ai une certaine somme d'argent qui est là. J'attends. C'est dans mon objectif. C'est précis, c'est clair. Et demandez à Dieu dans ma prière. Faut que ça vienne précis. Soyons explicites et spécifiques. Énumérons nos besoins clairement et librement. Faut pas avoir peur d'être vrai avec Dieu. Après tout, c'est pas notre travail, c'est le travail de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Vous savez quand ça va mal, hein, quand à 2h du matin vous réveillez que la gorge est prise parce que y a des échéances qui viennent, etc. Les gens vous téléphonent, vous recevez un fax, patati patata, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Les gens se rendent pas compte, tout le monde demande, mais on dirait que parfois on est la banque Rothschild. Ils ne savent pas, les gens, ils ne savent pas, ils ne sont pas dans votre situation. Ils pensent que tout est facile, quand ils demandent, ils reçoivent. Alors, quand ça vous prend? Eh bien, c'est important, j'aimerais vous le dire. Il faut parfois, Seigneur, ce n'est pas moi, je ne me suis pas embarqué tout seul. Seigneur, c'est toi. Alors, tu es le Dieu du miracle. Tu n'es pas le Dieu qui pourra normalement comme ça, seulement tu es le miraculeux. Et apprenez à vous attendre au miracle surnaturel, l'intervention surnaturelle. Je me rappelle un jour, c'était il y a quelques années, un jour j'étais là, je me suis réveillé, il fallait envoyer d'urgence, il fallait acheter un véhicule, tout avait été volé, cassé, accident, vous savez, le terrible en Afrique c'est les véhicules, vous savez, ça casse avec une facilité, et il fallait envoyer de l'argent, on n'avait rien, et je me rappelle à 2h du matin, pour montrer comme Dieu agit, à 2h du matin je me réveille, une angoisse, je savais qu'ils étaient dans le pétrin là-bas, et je me réveille, et à ce moment-là, Dieu me montre, simplement une image mentale d'un homme, je ne rentre pas dans les détails, d'un homme que j'avais rencontré dans une convention, à la fin d'une réunion dans une convention quelque part, je le rencontre, il me serre la main, et il me dit, frère, voilà, je suis plutôt quoi, un homme d'affaires, et il me dit, écoutez, j'apprécie beaucoup le travail, partagez plutôt ce qu'il m'a dit, on s'est salué, au revoir monsieur, 5 minutes, 2 minutes de parole, c'est tout. Et ce matin-là, à 2h du matin, paf. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis je me mets à prier pour cet homme. Peut-être pas, mais à prier. Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le canal que tu utilises? Je n'en sais rien. Et je me mets à prier pour cet homme pour que Dieu lui parle. Je n'avais pas du tout. Vous ne croirez pas, c'est arrivé le jeudi à 2h du matin, le mercredi à 2h du matin, vendredi matin, je reçois une lettre, un chèque, et cet homme, monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, je suis venu vous voir à la fin d'une réunion, pour vous dire, voilà, Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer certaines sommes d'argent pendant un état. Est-ce que vous pourriez m'envoyer l'utilisation, me dire l'utilisation de cet argent? Plusieurs milliers de francs suisses. Un homme que je ne connaissais pas. Cette nuit-là, Dieu me l'avait montré. Tout de suite, alors vous savez, je lui ai dit, effectivement, ça répondait à tout. Je lui ai répondu, voilà ce qu'on a fait, etc., etc. Mais je veux dire par là, il y a des fois des angoisses où viennent, des confusions où viennent. Mais dans chaque moment difficile que vous rencontrez, soyez prêts à être ouverts, il y a une réponse de Dieu. Il y a un moyen de Dieu. Il y a toujours quelque part, un moyen de Dieu. Comme vous regardez la vie de Jésus, il n'a jamais été dépourvu. Regardez, le drachme, comme je disais hier, a payé tout de suite. L'anon a trouvé pour entrer à Jérusalem, il dit à ses disciples, allez devant, vous trouverez un anon attaché. Remarquez comment faisait Jésus. Il n'a plus de quoi faire manger, et il dit, prend les 5 pains, il les démultiplie. Ce que je veux dire, que dans n'importe quelle situation, ça aussi c'est de la formation, dans n'importe quelle situation humainement désespérée, dans la confusion, dans la crainte, dans ce chemin de la crainte, dans ce chemin de la deuxième étape de la confusion, il y a une parole de Dieu pour vous. C'est pour ça qu'il faut être ouvert à votre être intérieur. Parce que c'est là que ça vient. Si j'avais dit, mais qu'est-ce que je suis en train de penser à un bonhomme blanc, je ne l'ai même pas vu, je ne le connais même pas, allez, je me retourne, je me couche. Rien du tout. Et comme ça, vous devez apprendre à être attentif à ce qui se passe en vous. Apprenez à être attentif à ce qui se passe en vous. J'aimerais dire encore ceci, donc la précision, soyons explicites, énumérons nos besoins clairement et librement, et tout ce qui est, alors je voudrais aussi vous dire quelque chose dans la confusion, c'est que tout ce qui est mauvais, moi maintenant, vous savez, maintenant je pense tout ce qui est mauvais, tout ce qui est destructeur, je ne discute plus, je ne dis pas Dieu permet, patati patata, je dis tout ce qui est mauvais, ça vient du diable, un point, j'ai carrément réglé les problèmes comme ça. La maladie, c'est du diable, l'adversité, c'est du diable, même si Dieu permet au diable de me souffler un peu dans les narines, je sais que c'est le diable, je n'en veux pas. Donc, si vous voulez, à partir de quand vous prenez ce principe dans votre marche sur le miracle, de déboucher sur le miracle, tout ce qui vous est contraire devient maintenant mauvais. Un vent contraire est mauvais. Jésus, le vent contraire, il l'arrête. Il dit comment? Il ne dit pas, Dieu a permis que le vent vienne. Non! Au nom de Jésus, tu te calmes. Pardon, il dit, tu te calmes. Et nous, on dit au nom de Jésus. Nous disons, tu te calmes. Nous devons le dire. Nous devons le dire. Et si vous radicalisez ainsi l'état d'esprit de ce que vous rencontrez, de ce que vous vivez, vous allez voir, c'est très simple. Je vais prendre un exemple. Les grues. Je reprends l'exemple du truc parce que ça permet comme ça, je ne veux pas toujours prendre les mêmes. Les grues, actuellement, donc, notre chantier se lève et les grues, elles sont en place, les gros, vous savez, les gros trucs extravagants qui enlèvent tout le matériel, t'es là, etc., etc. Et à un moment donné, dans cette démolition qui était en train de se faire, les voisins d'à côté qui devaient partir, parce que c'est tout un ensemble qui est refait, ne partaient pas. Vraiment l'opposition systématique. Partaient pas parce que je sais pas ce qu'ils avaient comme problème. Et nous avions des accords, nous ne pouvions pas les attaquer au tribunal, etc. Je me rappelle, hein, et nous avions des échéances bancaires, nous avions des échéances au niveau des cadres, nous avions des échéances au niveau de notre endroit de location, on était coincés. Et je me rendais compte, et ensuite ça a été le prêt bancaire. Nous avions demandé un prêt bancaire, mais il fallait vendre notre propre premier terrain. Notre premier terrain, on l'avait vendu, mais celui qui l'avait acquis, à un moment donné, s'était trompé, je ne sais pas trop ce qu'il avait fait. On était coincés d'un côté, coincés de l'autre. Et c'est là que vous pouvez comprendre que quand Moïse élevait les mains, pendant qu'en bas, Josué combattait contre Amalek, quand il baissait les bras, Amalek gagnait, quand il levait les bras, Josué triomphait. Et bien c'est la même chose, dans la persévérance, dans la confusion, il faut que vous sachiez, levez vos mains, même si c'est à 2h du matin que Dieu vous réveille, levez-vous, levez vos mains. Moi je me rappelle ma femme, logée à côté, mais je levais mes mains. J'étais là, pris en langue quand il fallait, je combattais en langue. Et je me rappelle quand cette grue était bloquée, que tous les ouvriers sur le chantier, hein, vous savez, quand vous êtes entrepreneurs, ils vous font payer, hein. Eh bien, je me rendais compte qu'on était bloqué, eh bien, je me levais d'un, j'étais là et je brisais cette opposition. Oh non, pour moi, c'était pas une opposition. Humainement, c'était un voisin qui ne partait pas. C'était une banque qui vendait certains trucs. C'était un acquéreur qui n'achetait pas. Eh bien, je brisais ça. Je voulais plus regarder les hommes. Je regardais la puissance qui était là. Au nom de Jésus, que cette résistance soit détruite. Au nom de Jésus, ne croirez pas, le lendemain matin, à 8 heures, les grues se remettaient en route. C'est normal. Et vous savez, ça, les gens l'ont compris, J'ai une équipe de frères, ils sont vraiment comme ça. Hein. Ceux qui s'occupent de la gestion, j'ai un expert en ceci, un autre là, architecte, etc. Mais vous savez, là, alors, quand ça ne marche plus, alors ils me téléphonent. Il y a un comité qui s'occupe de la construction, hein, mais quand ça ne marche plus, ils me téléphonent. Ça, ils ont vraiment joué la couverture spirituelle. Hein. Mais je peux vous dire que des choses qui étaient bloquées financièrement, qui étaient bloquées au niveau des entreprises, qui étaient bloquées au niveau de l'architecte, qui étaient bloquées au niveau des voisins, qui étaient bloquées avec les riverains et qui étaient bloquées avec les promoteurs, eh bien, quand on unit ainsi le spirituel avec le diaconal, ça fait du bruit, ça. Sans faire du bruit visible, ça fait du bruit dans les lieux célestes. Et c'est ainsi qu'on peut briser les chaînes. Soyez radical. L'opposition ne vient pas de Dieu. L'opposition ne vient pas de Dieu. N'acceptez pas la confusion. Est-ce que Dieu est après tout? Non, je refuse. Seigneur, c'est pour ta gloire que je fais ces choses-là. C'est pour ta gloire que je veux le miracle. Le troisième obstacle, je dirais simplement en conclusion, c'est que je viens de dire, soyons clairs à propos du miracle dont nous avons besoin. Ça y est clair. Seigneur, j'ai besoin de telle somme d'argent. Seigneur, j'ai besoin de temps. Seigneur, j'ai besoin de rencontrer tel homme. Je vais vous dire, un jour, je devais partir. Je vais vous raconter une petite anecdote qui touche ici. La première fois que je suis venu ici à Orvin, je crois que c'était le frère qui présidait. Je ne connaissais pas Orvin, je ne connaissais pas les réunions de Bethel, j'étais là. Et je partais, lundi je pars au Tchad, mais c'est assez curieux, j'étais dans la même situation. Je partais, mais pas au Tchad, c'est-à-dire je partais à Bangui. Et nous avions un rassemblement et beaucoup de gens m'attendaient. Et si vous voulez, j'avais désespérément besoin, j'ai rien dit à personne, j'avais désespérément besoin d'une certaine somme d'argent. Parce que les gens attendaient, il y avait beaucoup de choses à faire là-bas. Et je partais donc matériellement, il y avait plus le moyen de puisse produire, je reprenais l'avion, je partais d'ici dimanche soir, je repartais le lendemain matin pour Bangui. Et je me rappelle, le dimanche matin au culte, j'étais là, et pendant que les gens priaient, moi je priais aussi de mon côté, j'étais assis là, c'était là, et je priais, je disais, Seigneur, bon, pendant que j'étais là devant le Seigneur, je pensais à mon voyage à Bangui, je dis, Seigneur, je te remets aussi, fais que cet argent rentre. Et moi, j'étais pas du tout habitué, je crois que c'est le frère, je ne sais plus qui présidait le culte le dimanche matin. Tout à coup, j'entends un frère dire, matin au culte, président, faisons une collecte, la collecte du dimanche matin, vous faisiez ça avant, hein. La collecte du dimanche, je n'ai jamais vu faire ça dans une église, hein. Je crois que c'est pour ça que vous avez une bénédiction de Dieu, et bien, la collecte était faite pour le frère là. Moi j'étais étonné parce que je ne m'y attendais pas du tout, bon, j'ai rien dit, il y a eu la collecte, les frères m'ont donné l'argent, quand je suis rentré le lendemain matin, j'ai pu emmener tout ça, ça correspondait littéralement à la somme que j'avais besoin là-bas en Afrique. Voyez, le dernier moment, vous connaîtrez des moments comme ça, le dernier moment. Mais ce que je veux dire par là, mais faut être précis, faut être très très précis, parce que les choses de Dieu sont précises, c'est tout, la vérité est toujours précise, n'oubliez jamais ça. Alors, troisième obstacle, c'est ce qu'on va rencontrer, c'est la foi conditionnelle. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si c'était le moment, si c'est la volonté de Dieu, si la situation n'était pas si sérieuse qu'aujourd'hui, si la situation économique maintenant n'était pas si difficile, on pourrait faire des églises, mais tout le monde sait que la situation économique est difficile, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de problèmes, alors on ne fait pas d'église. Mais combien de chrétiens bien pensants vous le disent ça? Mes meilleurs frères le disent, hein. Si, mais il y en a des si, plein la vue. Des si, c'est pire que les pâquerettes. Il y a de la place pour 1 million de si avec une foi conditionnelle. Mais une foi conditionnelle n'est pas suffisante pour le miracle dont nous avons besoin. Et tant que vous direz si, vous n'aurez pas le miracle. Faut pas pleurer devant Dieu, faut pas jouer l'enfant gâté, vous n'aurez pas le miracle. Je peux le dire très fort, vous n'aurez pas le miracle. La foi conditionnelle n'est pas la foi du miracle. C'est important. Je pourrais être guéri si Jésus était ici comme à l'époque de la Bible. Dieu me guérira si c'est ma volonté. Oh, que ça fait gentil, mimi, tout plein ça. Il n'y a rien de plus destructeur que ça. Dieu pourrait m'aider si seulement ma famille le croyait possible. Dieu aurait pu répondre hier, mais aujourd'hui, il est trop tard. Il y a de la foi conditionnelle de Marie n'aurait jamais pu ressusciter Lazare. Votre foi conditionnelle ne produira jamais le miracle dont vous avez besoin. Alors quoi faire? Eh bien, retournez à la Bible. Retournez à la parole de Dieu. La volonté de Dieu est clairement exprimée dans sa parole. Vous connaissez réellement la volonté de Dieu. Elle réglera tous les si de votre vie. Sachez ce que Dieu désire pour vous. Et alors vous allez voir en lisant votre Bible combien vous êtes issu d'incrédulité. Combien vos pensées sont des pensées d'incrédulité. Vous allez réaliser que votre foi du départ c'est du vent ou c'est superficiel. Et vous allez réaliser que derrière votre proclamation de foi au départ, il y a tout un courant d'incrédulité qui fait partie de votre nature elle-même. Et si ces choses-là vont se révéler dans vos si. Et à ce moment-là, au lieu de fuir, au lieu d'arrêter, au contraire, vous vous mesurez à vos si. Et vous dites, si, c'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Et vous prenez les passages de la Bible, vous prenez les promesses. Je veux dire quelque chose, un argument très fort comme a sorti pour la construction de l'Église. La dernière Église, hein, ça fait quand même une grande somme d'argent. Il m'a dit, mais tu te rends compte? Toute cette mission. Et ça va, vous savez, quand vous mettez les pieds dans la mission, ça vous prend. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Ensuite, c'est aussi le Togo. Mais on ne s'arrête pas. Il faut que moi, je freine parce qu'il ne faut pas aller n'importe comment. Hein, eh bien, mais je veux dire une chose. Mais on dit, mais tu te rends compte? Tu as toute cette charge. Tu as toute cette réalité. Tu te rends compte les églises. Tu te rends compte les gars qui sont dans l'œuvre. Mais il faut le salaire. Et puis, il y a des nouveaux frères à mettre dans l'œuvre. Il y a des nouveaux salaires à trouver. Si tu te lances dans un objectif comme ça. Mais je dis, mais je me lance pas. C'est malgré nous. Mais si tu te lances, il y avait des gens qui pensaient sincèrement. Ils avaient humainement raison. Mais tu te rends compte le poids que ça va faire. Normal. C'est logique. C'est impeccable au point de vue logique. Alors, le si, Seigneur. Si. J'ai pris, cherché, Seigneur. Fait que je ne m'embarque pas n'importe où, fait qu'on ne s'embarque pas n'importe où. Et puis Dieu m'a parlé par un verset. Il y a toujours une réponse de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut, écoutez bien ça, ça peut vous aider si ça m'a aidé à moi. Petit Alsacien, ça vous aidera vous, grand Suisse. Hein. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à quoi? À tous vos besoins, c'est écrit tout. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, etc. On va le redire ensemble. Moi, ça me fait du bien. Alors, hein? Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'ai fermé ma Bible, j'ai dit, on se lance. Et j'ai vu que l'argent pour la mission, que l'argent pour des œuvres, eh bien, Dieu donnait bien souvent, inattendu. Mais je sais que si vous êtes dans le plan de Dieu, eh bien, les si, vous les mettez au panier et vous apprenez à avancer. Parce qu'il y a des promesses, des écritures pour vous qu'il faut apprendre. Et moi, ce verset que nous venons de lire ensemble, je ne l'avais jamais vraiment, oui, Dieu pourvoira, alléluia. Mais c'est dans la difficulté, quand le si s'est posé, que j'ai dû creuser. Donc, vous comprenez, c'est au cours des péripéties que vous allez rencontrer, que vous allez creuser la Bible. Et que alors, la foi va venir. Donc, je dirais, les si, la foi conditionnelle ne produira jamais de miracle. Croyez, sachez d'abord ce que Dieu désire accomplir et ensuite croyez qu'il accomplira. Le quatrième obstacle, c'est la foi générale. Une foi générale, telle que Marie le dit au verset 22, Marie montre ce genre de foi. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et nous chantons, nous tapons des mains, Dieu est vivant, Dieu est bon, il pardonne mes péchés, il me guérit de mes maladies. On saute, on tape, cri de joie, dans le sens de joie. On y va à plein cœur, hein, on y va. C'est la foi générale. Je m'appelle une fois dans une église, une jeune église de jeunes, composée vraiment de jeunes dans la région de Lyon. M'a invité un soir, c'était la dernière semaine, j'ai dit que je ne pouvais pas venir le dimanche, je suis allé un soir, et j'étais là, les jeunes, vous savez, quand les jeunes, ils y vont, ils y vont. Pas comme ça, danser, ça, taper des mains, ils voulaient m'en mettre plein la vue. Bon, au bout de trois quarts d'heure de louange, d'adoration, une heure, ils m'ont laissé la place. Alors j'ai commencé à parler des blocages intérieurs. Vous auriez dû voir les visages. Blocage intérieur. Blocage, ceci, cela. Les luttes intérieures. Quand j'ai fini, au bout d'une heure de prédication, je dis que maintenant, ceux qui ont été concernés s'avancent, les deux tiers, les trois quarts de l'église s'avançaient. Mais alors, ce qui était intéressant, C'est quand on a commencé à prier, à imposer les mains, fallait voir ce qui s'est passé. Une fille à terre en train de hurler sur la puissance démoniaque qui est en train de se révéler, qui avait des problèmes de masturbation, qu'elle cachait à ses copines, et pourtant, alléluia. Hein? La foi générale, c'est joli, mais la foi générale doit vous faire pénétrer dans la foi précise, claire et nette. La foi, la réelle foi est claire, nette, précise. C'est pas Seigneur, tu es bon. Seigneur, un jour tu me ressusciteras. Seigneur, tu es celui qui pourvoit tous mes besoins. Seigneur, tu es celui qui pourvoit mes 90 millions. Oh, restons plus bas, peut-être. Seigneur, tu es celui-là. Tu es celui-là, soyez précis. La foi générale, ça n'a jamais remporté des victoires. Mais la foi précise, la foi nette, celle qui vous oblige à vous mouiller, excusez-moi du terme, c'est celle-là qui entraîne le miracle. Alors, la Marthe avait cette foi, Seigneur, je sais qu'un jour, ce sont de très belles paroles. Ah, tout est possible à Dieu, nous le chantons, on croit dans la puissance de Dieu, mais tout ça, c'est théorique. Et j'aimerais dire quelque chose, votre foi conditionnelle ne produira jamais le miracle dont vous avez besoin. Retournez à la parole de Dieu, la volonté de Dieu est dans sa parole, connaissez la volonté de Dieu. Pour un miracle spécifique, nous avons besoin d'une foi spécifique. Je peux redire ça? Pour un miracle spécifique, nous avons besoin d'une foi spécifique, précise. Hein? Dieu t'accordera, dit Marthe, tout ce que tu lui demanderas. Elle le croit, mais elle ne s'attend pas à ce que ça se fasse. Tu crois peut-être ce soir que Dieu te guérit, mais tu ne t'attends pas à ce qu'il le fasse là sur place. Tu crois peut-être que Dieu peut intervenir dans ton problème commercial, mais est-ce que tu t'attends réellement que ça va se faire? Je ne dis pas que Dieu peut le faire, mais que ça va se faire. C'est ça la vie. C'est ça la foi précise. C'est ça la réalité. Et tant que vous n'avez pas atteint ce stade-là, vous êtes dans la foi générale qui n'entraîne pas le miracle. Elle avait une foi générale, une foi pour toute chose, une foi pour n'importe quoi, mais non pas une foi pour le miracle particulier dont elle avait besoin. Et à ce moment-là, Jésus va fixer sa foi en lui disant, ton frère ressuscitera. Vous savez, Jésus n'a pas dit, oui, je fais la résurrection, la vie comme ça. Ton frère, il va ressusciter. Point, c'est tout. Il va, quoi, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est pas ce que Jésus a voulu dire. Et ton frangin, je vais te le ressusciter. Moi, il n'a pas dit comme ça. Un peu pour vous décontracter. Mais Jésus dit, précis, il sait où il va. Je ne sais pas si vous réalisez la stature intérieure de Jésus. C'était quelqu'un, Jésus. Tu as raison, mon frère. Jésus n'avait pas entrepris ce voyage pour n'importe quelle chose. Il avait la foi pour ressusciter Lazare d'entre les morts. Ce n'était pas une foi générale, c'était une foi précise. Cette maladie n'est pas la mort. Je vais le ressusciter. Vous remarquerez que Jésus n'a pas changé au cours de son pèlerinage. Autour de lui, ça s'étiole à droite, à gauche, et les réels sentiments paraissent à jour, mais les siens non. Impeccable, le même. Ton frère ressuscitera, c'est tout. Alors j'aimerais peut-être vous dire, mon ami, de quel miracle avez-vous besoin? Avez-vous un Lazare qui a besoin d'être ressuscité? Affrontez-vous une situation difficile ou impossible? De quoi avez-vous besoin? Nommez-le, soyez spécifique, lancez un défi à votre foi, fixez votre foi là-dessus, clair, non pas en général, mais sur ce point spécifique. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être des enfants difficiles qui vous en font voir, etc. Eh bien, fixez votre foi là-dessus. Nous devons imiter Jésus et triompher de l'obstacle représenté par une foi générale. Et puis il y a le cinquième obstacle, encore 5 minutes, cinquième obstacle, c'est une foi pour le mauvais moment. Jésus dit, ton frère ressuscitera, Marthe répond, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle croit maintenant au miracle dont elle a besoin, mais non pas pour maintenant. Elle croit que le miracle est possible, mais elle ne croit pas qu'il va se faire maintenant. Ça c'est votre problème comme le mien. Seigneur, j'ai besoin de ça, je sais que ça t'est possible, je sais qu'il le fera peut-être, mais on a la lutte, mais maintenant, c'est maintenant que j'ai besoin. J'ai maintenant que j'ai besoin de plusieurs milliers de francs, c'est maintenant que j'ai besoin de ma guérison, c'est maintenant que j'ai besoin d'une réconciliation de couple, c'est maintenant que j'ai besoin que mon enfant soit touché, c'est maintenant. Le mauvais moment, une foi mal placée pour un temps qui n'est pas le temps de Dieu. Alors, il est étonnant de voir un si grand nombre de personnes croire à des miracles passés ou à des miracles futurs, mais ces mêmes personnes ne possèdent aucune foi pour un miracle au présent. À quoi ça vous sert de savoir que Moïse a fendu les eaux de la mer Rouge? À quoi ça vous sert quand vous êtes en train de couler? Mais c'est vrai. À quoi ça vous sert votre foi? Elle est zéro. À quoi ça vous sert que Jésus a la puissance de ressusciter les corps qu'un jour nous irons à sa rencontre si vous êtes malade et que vous êtes en train de mourir? À quoi ça vous sert? À rien du tout. Votre foi pour l'avenir ne sert de rien, votre foi du passé ne sert de rien, c'est la foi du présent qui compte. Des gens croient au miracle, la Bible, l'avenir, le retour, la résurrection, la transformation des croyants, le jugement divin, plusieurs autres, mais leur foi n'est pas suffisante pour obtenir un miracle aujourd'hui. Et j'aimerais dire, vous savez pourquoi on a droit au miracle d'aujourd'hui? Aujourd'hui, là, au milieu de nous. Pourquoi? Parce que le don des miracles a été donné à l'Église. La meilleure des preuves que Dieu veut des miracles au milieu de nous, c'est qu'il a donné des dons de miracles. Le don des miracles est dans 1 Corinthiens. Ça fait partie, c'est pas du passé, c'est pas de l'avenir, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Déjà, les dons distribués par le Saint-Esprit sont là pour nous montrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus a dit à Marthe, je ne serai pas la résurrection plus tard pour les morts, je suis la résurrection. Je suis la résurrection aujourd'hui, je suis la résurrection et la vie, non pas j'étais ou je serai, je suis. Mon ami, il faut que tu croies que la Bible est vraie pour toi aujourd'hui. Il faut que tu croies que la guérison est pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui veut dire un état présent. C'est peut-être demain matin en te réveillant, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est que tu saches, c'est que c'est à toi aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est important. Nous avons besoin de la vraie foi pour un miracle d'aujourd'hui. Sixième obstacle, une foi critique. Alors là, conseilleurs, souvent ce n'est pas les payeurs. Regardez les gens quand ils voient Jésus pleurer. Ils disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Ils comparaient les miracles auxquels Jésus avait fait autrefois avec ce qui se faisait maintenant, et ils espéraient des miracles, les mêmes miracles que ceux qu'ils avaient vus. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas guéri cette personne comme il avait guéri tel autre? Ça vous est jamais arrivé de dire, mais comment ça se fait? Dieu a béni là, pourquoi pas moi ici? Ou pourquoi Dieu a-t-il guéri là et pas à côté? Alors que ce besoin humainement est beaucoup plus grand que l'autre. Des si, des critiques, il y en a plein. Pourquoi Dieu, quand vous écoutez quelqu'un, tout est facile pour lui, il dit, mais pourquoi ça marche pour lui, pas pour moi? La foi critique, il a guéri les autres, pourquoi ne fait-il pas ça? Eh bien, j'aimerais vous dire, la foi critique et comparative est une fausse fondation. Vous ne pouvez pas vous baser sur les miracles de hier, vous ne pouvez pas vous baser sur votre foi de hier, vous ne pouvez pas vous baser sur le miracle que vous avez vécu hier, ou qu'un autre à côté de vous a vécu, vous avez vous baser sur votre propre foi aujourd'hui. Votre propre foi. Nous avons besoin d'une foi fraîche. Écoutez, c'est bien, je veux le crier parce que ça, il faut que ça rentre. Nous avons besoin d'une foi fraîche pour chaque miracle. Autant pour le miracle du sel dont j'ai besoin pour mon omelette, autant j'ai besoin du miracle pour croire, pour que Dieu pourvoie à tous mes besoins, etc., etc. Nous ne pouvons pas fonder notre foi sur le témoignage d'une autre personne ou sur notre propre témoignage d'une expérience passée. Les gens peuvent pécher et perdre leur témoignage. Et si vous comparez, si vous construisez votre vie sur un homme, il y a parfois des biographies, il y a parfois des bouquins qui sont écrits, qui circulent dans nos librairies évangéliques. Au moment où cet homme ou cette personne l'a écrit, c'était merveilleux. Mais entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et si vous construisez votre vie sur un homme ou sur une femme, vous serez déçu. Mais si vous construisez votre vie sur la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Et c'est important. C'est important. C'est absolument... Nous avons besoin d'une foi nouvelle pour chaque miracle. Nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu pour chaque requête. Vous devez trouver la promesse pour le miracle dont vous avez besoin. Prenez l'habitude de fouiller dans vos Bibles, de voir si oui ou non vous avez droit à telle ou telle chose. La foi d'hier ne suffit pas pour le miracle d'aujourd'hui. Et enfin, il y a le septième obstacle, la foi inactive. Jésus est à la fin du voyage, il est là, debout, sûr de lui, et il dit, lui qui avait déclaré au démarrage, cette maladie n'est pas à la mort, eh bien maintenant Jésus est devant le tombeau et il dit, ôtez la pierre. Dieu va ressusciter Lazare. Jésus va ressusciter Lazare. Mais il y a cet obstacle final, si vous voulez, c'est effectivement aussi, et c'est important, c'est effectivement aussi savoir enlever la pierre. Je vais vous donner un exemple, je reprends le truc de la construction. Quand je me suis trouvé devant le notaire, et si vous voulez, que tous les dossiers étaient faits, les dossiers de la banque, les dossiers de l'urbanisme, les dossiers des promoteurs, les dossiers des architectes, les dossiers des ingénieurs, les dossiers de trucs. Dans ce dossier, il y avait tous les engagements que nous prenions pour payer à tel tarif, etc. Tout était prêt, il manquait la signature. Et j'avais beau claironner, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu, frères et sœurs à l'église, soyez courageux, on va y aller, etc. Il y a eu un moment où on était devant le tombeau, il fallait ôter la pierre, il fallait que je signe. Et il y a un moment donné où il faut signer. Il y a un moment donné où vous devez faire votre part. À vous, je ne le ferai jamais à votre place. Ôtez la pierre, a dit Gédéon, il s'est mouillé devant tout le monde. Je me rappelle quand il y a eu la radio, nous n'avions pas la radio. Maintenant, elle date depuis 83, bon, elle va se développer de plus en plus, bon, comme c'est tout le reste. Mais je veux dire, Dieu, faible commencement, puis ensuite Dieu développe. Mais je veux dire par là, c'est que nous n'avions pas l'argent pour la radio, nous n'avions pas d'autorisation. Et puis on a eu l'autorisation, nous n'avions pas d'argent. Et je me rappelle, il a fallu à un moment donné, Dieu m'a parlé, il a fallu à un moment donné que je monte sur l'estrade un dimanche matin et que j'ose dire à toute l'église, nous aurons notre radio. Je m'excuse, je n'avais pas encore l'autorisation légale, ni l'argent. Mais il a fallu, je me rendais compte que rien ne se débloquait. L'argent ne venait pas, les autorisations ne venaient pas. Il a fallu que je monte sur les strikes, que je me risque mon ministère, en disant publiquement, frères et sœurs, nous aurons notre radio. Le soir, j'avais plusieurs dizaines de milliers de francs. Ôtez la pierre. Jésus est là, seul. La foule est là, Marthe, Marie, ça pleure, les juifs, la critique, les disciples qui disent, maintenant, qu'est-ce qui va se passer hein? Tout le monde est là, il est seul, il y a un moment donné, vous serez seul avec votre vision, vous serez seul avec votre pas de foi, enfin, vous serez seul dans la décision à prendre, mais il faut la prendre, parce que Dieu vous demandera de faire tout ce que vous avez à faire vous, Dieu ne le fera jamais à votre place. Et c'est là que vous vous dites, Seigneur, fais le signe à ma place, maintenant il ne le fera pas. Dieu ne signe jamais à votre place, parce que Dieu vous respecte, vous êtes ouvrier, collaborateur avec Dieu, et Dieu ne fera pas le pas de foi à votre place, c'est absolument indispensable. Eh bien, regardez simplement ça, Jésus est seul. Et il faut qu'il enlève la pierre. Nous devons accomplir ce que nous pouvons accomplir. En retour, Dieu accomplira ce que nous ne pouvons pas accomplir. Nous faisons les choses faciles et Dieu, lui, fait les choses difficiles. Et je voudrais dire quelque chose. Quand Dieu veut faire des choses formidables avec nous, il rend les situations difficiles. Mais quand Dieu veut faire des choses extraordinaires avec nous, il rend nos situations impossibles. Je peux répéter ça, ça me fait du bien. Alors. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec vous, il rend vos situations difficiles. Où il permet qu'elle soit difficile, parce que vous allez rencontrer toute l'opposition. Mais quand Dieu a des projets extraordinaires avec vous, les situations autour de vous deviennent impossibles. Ah, vous êtes dans une situation impossible ce soir? Alors, alléluia! Hein? Alors, il simplement ceci, Jésus a une foi triomphante. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Finalement, Marthe qui disait, Seigneur, tu ressusciteras, ne croyait pas. Quand Jésus dit, enlevez la pierre, elle dit, mais il sort déjà. Et là sort l'incrédulité qui est en elle comme un chien dent, qui est en vous et qui est en moi. Mais Seigneur, il sort déjà. Toute la logique humaine est là, comme l'obstacle dernier. Et Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Il n'a pas changé depuis le début jusqu'à la fin. Ne t'ai-je pas dit? Toujours dit au départ, cette maladie n'apprend. À Marthe, il dit, ton frère, ne t'ai-je pas dit? Il l'a dit. Il est la parole. Il ne change pas. Alors il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la croix, la gloire de Dieu. Marthe avait beaucoup de foi. Elle avait déclaré qu'elle croyait tout ce qui était possible, toutes les choses possibles, mais elle n'était pas prête à enlever la pierre. Ce soir, quelle est votre pierre? Vous savez, le monde veut voir, le monde veut dire, je vois, alors je crois. Dieu dit, il faut que tu crois, alors tu verras. Et c'est important, la foi parfaite de Jésus a révélé les craintes, la confusion et la foi insuffisante de tous ceux qui l'entourent. En un mot, à la fin du voyage, Jésus s'est retrouvé seul. Et alors, vous remarquerez, c'est important maintenant, Jésus va prendre position par rapport à deux Paul. Il va parler à son père. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Je te remercie, je parle à cause de ceux qui m'entourent. Ah, il est paisible. Il est devant son père. Il sait en qui il croit. Il n'a pas varié d'un iota depuis le démarrage. Il sait que c'est l'heure de Dieu. Il sait. Ça, il parle à son père doucement. Et puis, il se tourne vers la mort. Il se tourne vers le cadavre. Il se tourne vers les puissants de témoins. Et là, il commande. Lazare, sors! Ça voulait dire, vous le lâchez maintenant. Lazare, réveille-toi. Il parle à la mort. Il parle à un être mort. Il parle à des lois naturelles autres. Maintenant, sors. C'est la parole forte. Vous parlez à Dieu, mais vous commandez au diable. Vous parlez à Dieu, mais vous commandez à la maladie. Vous parlez à Dieu, mais vous commandez à votre organe d'être guéri. Il faut parler à votre corps. Sois en bonne santé. Souvent, les gens passent leur temps à prier. Il y a un temps pour parler à Dieu. Et il y a un temps pour parler à l'ennemi. Pour parler à la maladie. Pour parler à un démon. Pour parler à un corps atteint par la maladie. Je pourrais vous donner des témoignages où j'ai prié, Seigneur, Seigneur, fais rien. Quand j'ai parlé à un organe atteint, il a été guéri. Quand j'ai ordonné à un organe de refonctionner normalement, instantanément ça s'est fait. Ça ne se fait pas toujours, moi je voudrais que ça se fasse tout le temps. Peu rien, ce n'est pas moi qui fais les guérisons. Mais je sais que là, il y a une clé à découvrir.
Il a parlé, il a commandé au mal. Il a parlé à Dieu, mais il a commandé. Et je dirais encore ceci, hein, face au tombeau, face à la grotte, eh bien Jésus fait ôter la pierre, maintenant il coupe les amarres, et puis Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en réalité le texte veut dire tout ce que vous exigerez en mon nom, pas par rapport à Dieu, vous n'exigez rien à Dieu, parce que Dieu est votre Père, vous lui demandez, et vous lui demandez ce que vous savez déjà qu'il vous avait donné en Jésus-Christ, pour lesquels il vous attend, comme un père attend son enfant, et à la relation intime. Mais quand Jésus dit tout ce que vous exigerez en mon nom, ça veut dire vous avez le droit d'exiger à la maladie de partir. Vous n'exigez pas de Dieu, mais vous exigez de Satan de lâcher. Vous exigez de Satan de lâcher votre corps ou de lâcher le corps d'un membre de votre famille. Vous exigez de Satan de lâcher tel homme, de lâcher tel cerveau, de lâcher tel aveuglement, de briser tel, de lâcher, d'enlever tel voile. Le refus d'une conversion, vous liez la puissance d'opposition de Satan. Vous lui ordonnez, vous ordonnez un corps de refus. Vous exigez au nom de Jésus que tout ce qui a été accompli à la croix du calvaire ait son effet dans le besoin qui est là. Vous exigez le miracle, non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à tous les vents contraires et par rapport à toutes les puissances qu'on a. Vous l'exigez au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je le ferai. Je le ferai. Vous l'exigez. Combien de gens encore prient, Seigneur, c'est la lamentation. Devant le diable, vous avez beau pleurer, il ne changera pas, vous savez. Pleurez, il sera content. Vous le nourrissez quand vous faites ça. Mais quand vous exigez qu'il lâche, quand vous exigez à la maladie de partir, quand Jésus a commandé à la fièvre de partir, il ne lui a pas dit, Seigneur, envoie que la fièvre s'en aille, tu pars. Mes amis, ce sont les différentes dimensions de la foi. Il y en a d'autres choses, mais là, je vous ai donné les principes généraux. Puissiez-vous comprendre cela. Osez le mettre en action. Vous aurez des pleurs, vous aurez des craintes, vous aurez des tremblements. Mais prenez courage. Vous n'êtes pas les seuls. Et les plus grands hommes de Dieu, les plus grandes femmes de Dieu, ce sont souvent ceux-là qui ont eu le plus de peur, mais qui ont eu également la plus belle réaction, c'est de chaque fois remettre toute chose entre les mains de celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En réalité, la foi finale, c'est être entré dans le repos de Dieu. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu ne t'attribueras jamais aucune gloire. Parce que tu réalises au travers des étapes que tu as vécues, tu réaliseras tout simplement que finalement, c'est la formation de Dieu dans ta vie qui a permis à Dieu, au travers de ce cheminement, de faire ce que Dieu, en réalité, avait prévu de faire avec toi. Ça vaut pas la peine? Ça vaut la peine d'être chrétien?
Radio Certitude.
Venons d'écouter le pasteur Pierre Touchel nous parler des étapes qui précèdent le miracle. Ceci dans la série « Vivre dans l'onction de Dieu ».
Nous espérons que vous avez été béni par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.